Le petit Saint-Georges, 16 avril. Saint Droctové et les premiers abbés de Saint-Germain-des-Prés m'occupent depuis 40 ans, mais je ne sais si j'écrirai leur histoire avant d'aller les rejoindre. Il y a déjà longtemps que je suis vieux. Un jour de l'an passé, sur le pont des Arts, quelqu'un de mes confrères de l'Institut se plaignit devant moi de l'ennui de vieillir. « C'est encore, lui répondit Saint-Douve, le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps. J'ai usé de ce moyen et je sais ce qu'il vaut. Le dommage est non point de trop durer, mais bien de vouloir tout passer autour de soi. Mère, femme, amis, enfants, la nature fait et défait ses divins trésors avec une morne indifférence, et il se trouve qu'enfin nous n'avons aimé, nous n'avons embrassé que des ombres. » Mais il en est de si douce. Si jamais créature glissa comme une ombre dans la vie d'un jeune homme, c'est bien la jeune fille que j'aimais quand, oh chose incroyable à cette heure, j'étais moi-même un jeune homme. Et pourtant, le souvenir de cette ombre est encore aujourd'hui une des meilleures réalités de ma vie. Un sarcophage chrétien des catacombes de Rome porte une formule d'imprécation dont j'ai appris avec le temps à comprendre le sens terrible. Il y est dit « Si quelqu'un pis viole cette sépulture, qu'il meure le dernier des siens. » En ma qualité d'archéologue, j'ai ouvert des tombeaux, remué des cendres, pour recueillir les lambeaux d'étoffe, les ornements de métal et les diverses gemmes qui étaient mêlées à ces cendres. Mais je l'ai fait par une curiosité de savant, de laquelle la vénération et la piété n'étaient point absentes. Puisse la malédiction gravée par un des premiers disciples des apôtres sur la tombe d'un martyr ne jamais m'atteindre. Je ne dois pas craindre de survivre au mien tant qu'il y aura des hommes sur la terre, car il en est toujours qu'on peut aimer. Mais la puissance d'aimer s'affaiblit, et se perd avec l'âge comme toutes les autres énergies de l'homme. L'exemple le prouve, et c'est là ce qui m'effraie. Suis-je certain de n'avoir pas moi-même éprouvé déjà ce grand dommage? Je l'aurais assurément éprouvé sans une heureuse rencontre qui m'a rajeuni. Les poètes parlent de la fontaine de Jouvence. Elle existe! Elle jaillit de dessous terre à chacun de nos pas, et l'on passe sans y boire. La jeune fille que j'aimais, mariée selon son cœur à un rival, entra en cheveux blancs dans l'éternel repos. J'ai retrouvé sa fille, de sorte que ma vie, qui n'avait plus d'utilité, a repris un sens et une raison d'être. Aujourd'hui, je prends le soleil, comme on dit en Provence. Je le prends sur la terrasse du Luxembourg, au pied de la statue de Marguerite de Navarre. C'est un soleil de printemps, capiteux comme un vin jeune. Je suis assis et je songe. Mes pensées s'échappent de ma tête comme la mousse d'une bouteille de bière. Elles sont légères et leur pétillement m'amuse. Je rêve, cela est bien permis, je pense, à un bonhomme qui publia 30 volumes de textes anciens et collabora pendant 26 ans au Journal des Savants. J'ai la satisfaction d'avoir fait ma tâche aussi bien qu'il m'était possible et d'avoir pleinement exercé les médiocres facultés que la nature m'avait données. Mes efforts ne furent pas tout à fait vains, mais j'ai contribué, pour ma modeste part, à cette renaissance des travaux historiques qui restera l'honneur de ce siècle inquiet. Je serai compté, certes, parmi les 12 ou 12 qui révélèrent à la France ses antiquités littéraires. Ma publication des œuvres poétiques de Gautier de Coincy inaugura une méthode judicieuse et fidate. C'est dans le calme sévère de la vieillesse que je me décerne à moi-même ce prix mérité, et Dieu qui voit mon âme C'est si l'orgueil ou la vanité ont la moindre part à la justice que je me rends. Mais je suis là, mes yeux se troublent, ma main tremble et je vois mon image en ces vieillards d'Homère que leur faiblesse s'écartait des combats et qui, assis sur les remparts, élevaient leur voix comme les cigales dans la feuillée. Ainsi allaient mes pensées quand trois jeunes gens s'assirent bruyamment dans mon voisinage. Je ne sais si chacun d'eux était venu en trois bateaux, comme le singe de la fontaine, mais il est certain que les trois se mirent sur 12 chaises. Je pris plaisir à les observer, non qu'ils eussent rien de bien extraordinaire, mais parce que je leur trouvais cet air brave et joyeux qui est naturel à la jeunesse. Ils appartenaient aux écoles. J'en fus assuré, moins peut-être, aux livres qu'ils tenaient à la main qu'au caractère de leur physionomie. Car tous ceux qui s'occupent des choses de l'esprit se reconnaissent dès l'abord par un je ne sais quoi qui leur est commun. J'aime beaucoup les jeunes gens, et ceux-ci me plurent, malgré certaines façons provocantes et farouches qui me rappelèrent à merveille le temps de mes études. Mais ils ne portaient point comme nous de longs cheveux sur des pourpoints de velours. Ils ne se promenaient pas comme nous avec une tête de mort. Ils ne s'écriaient pas comme nous « Enfer et malédiction ». Non, ils étaient correctement vêtus, et ni leur costume ni leur langage n'empruntaient rien au Moyen-Âge. Je dois ajouter qu'ils s'occupèrent des femmes qui passaient sur la terrasse et qu'ils en apprécièrent quelques-unes en termes assez vifs. Mais leurs réflexions sur ce sujet n'allèrent point jusqu'à m'obliger à quitter la place. Au reste, quand la jeunesse est studieuse, je lui permets d'avoir ses gaietés. Un d'eux ayant fait je ne sais quelle plaisanterie galante, « Qu'est-ce à dire ?» s'écria avec un léger accent gascon le plus petit et le plus brun des trois. « C'est à nous autres, physiologistes, à nous occuper de la matière vivante. Quant à vous, chez Élie, si que comme tous vos confrères, les archivistes paléographes, n'existez que dans le passé, occupez-vous de ces femmes de pierre qui sont nos contemporaines. » Et lui montrant du doigt les statues des dames de l'ancienne France qui s'élèvent toutes blanches en demi-cercle sous les arbres de la terrasse. Cette plaisanterie insignifiante en elle-même m'apprit du moins que celui qu'on nommait Gélis était un élève de l'école des Chartes. La suite de la conversation me fit savoir que son voisin, blond et blême jusqu'à l'effacement, silencieux et sarcastique, était Boulmier, son camarade d'école. Gélis est le futur docteur, oh, je souhaite qu'il le devienne un jour, discourait ensemble avec beaucoup de fantaisie et de verve. Au milieu des plus hautes spéculations, il jouait sur les mots et plaisantait avec cette bêtise particulière aux gens d'esprit. Je veux dire une bêtise énorme. Je n'ai pas besoin d'ajouter, n'est-ce pas, qu'il ne daignait soutenir que les plus monstrueux paradoxes. Ils employaient toute leur imagination à se rendre absurdes et tout leur jugement à choisir le contraire du sens commun. À la bonne heure, je n'aime pas les jeunes gens trop raisonnables. L'étudiant en médecine, ayant regardé le titre du livre que Boulmier tenait à la main, « Tiens, lui dit-il, tu lis du Michelet, toi ?»« Oui, répondit gravement Boulmier, j'aime les romans. » Gélis, qui les dominait par sa belle taille élancée, son geste impérieux et sa parole prompte, prit le livre, le feuilleta et dit « Oh, Michel a toujours eu des propensions à l'attendrissement. Il a versé de douces larmes sur Maillard, ce petit homme propre qui introduisit la paperasserie dans les massacres de septembre. Mais comme l'attendrissement mène à la fureur, le voilà tout à coup furieux contre les victimes. Que voulez-vous? C'est le sentimentalisme moderne. On a pitié de l'assassin, mais on considère que la victime est impardonnable. » Dans sa dernière manière, Michelet est devenu plus Michelet que jamais. Cela n'a plus le sens commun, c'est admirable. Ni art, ni science, ni critique, ni récit, mais des colères, des pamoisons, une crise d'épilepsie à propos de faits qu'il dédaigne d'exposer. Des cris de petit enfant, des envies de femme grosse, et un style, mes amis. Pas une phrase faite, c'est étonnant. Et il rendit le livre à son camarade. Cette folie est amusante, me dis-je, et non pas si dénuée de sens qu'elle en a l'air. Ce jeune homme a vivement touché, en se jouant, le défaut de la cuirasse. Mais l'étudiant provençal affirma que l'histoire était un exercice de rhétorique tout à fait méprisable. Selon lui, la seule et vraie histoire est l'histoire naturelle de l'homme. Michelet était sur la voie quand il rencontra la fistule de Louis XIV, mais il retomba tout aussitôt dans la vieille ornière. Ayant exprimé cette judicieuse pensée, le jeune physiologiste alla rejoindre un groupe d'amis qui passait. Les deux archivistes, moins apparentés dans le jardin si distant de la rue Paradis, au Marais, restèrent en tête à tête et se mirent à causer de leurs études. Gélis, qui achevait sa troisième année d'école, préparait une thèse dont il exposa le sujet avec un enthousiasme juvénile. À la vérité, ce sujet me parut bon, et d'autant meilleur que j'ai cru devoir moi-même en traiter récemment une notable partie. C'était le Monasticum Gallicanum. Le jeune érudit, ou je lui donne ce nom comme un présage, voulait signaler toutes les planches gravées vers 1690 pour l'ouvrage que Don Michel Germain eut fait l'imprimer sans l'irrémédiable empêchement qu'on ne prévoit guère et qu'on n'évite jamais. Don Michel Germain laissa du moins en mourant son manuscrit complet et bien en ordre. En ferais-je autant du mien ? Mais ce n'est point la question. Monsieur Gélis, autant que je puis le comprendre, se proposait de consacrer une notice archéologique à chacune des abbayes figurées par les humbles graveurs de Don Michel Germain. Son ami lui demanda s'il connaissait tous les documents manuscrits et imprimés relatifs à son sujet. C'est alors que je dressai l'oreille. Ils parlèrent d'abord des sources originales et je dois reconnaître qu'ils le firent avec une suffisante méthode, malgré d'innombrables et difformes calembours. Puis ils en vinrent aux travaux de la critique contemporaine. « As-tu lu, dit Boulmier, la notice de Courajod ?»« Bon, dis-je. »« Oui, répondit Gélis, c'est exact. »« As-tu lu, dit Boulmier, l'article de Tabizet de la Roque dans la revue des questions d'historique ?»« Bon, dis-je pour la seconde fois. »« Oui, répondit Gélis, c'est plein de choses. »« As-tu lu, dit Boulmier, le tableau des abbayes bénédictines en 1600 par Sylvestre Bonnard ?»« Bon, me dis-je pour la troisième fois. »« Ma foi, oh non, répondit Gélis, Bonnard est un imbécile. » En tournant la tête, je vis que l'ombre avait gagné la place où j'étais. Il faisait frais, et je m'estimais fort sot de risquer un rhumatisme à écouter les impertinences de deux jeunes fats. « Ah, ah !» me dis-je en me levant, « que cet oisillon jaseur fasse sa thèse et la soutienne. Il trouvera mon collègue Quichera ou quelque autre professeur de l'école pour lui river son bec jaune. Je le nomme proprement un polisson. Et vraiment, en y songeant comme j'y songe à cette heure, ce qu'il a dit de Michelet est intolérable et passe les bonnes bornes. Parler ainsi d'un vieux maître plein de génie, mais c'est abominable. Thérèse, donnez-moi mon chapeau neuf, ma meilleure redingote et ma canne à pommeau d'argent. Mais Thérèse est sourde comme un sac de charbon et lente comme la justice. Les ans sont la cause. Le pis est qu'elle croit avoir huit filles et bons pieds. Et fière de ses 60 ans d'honnêteté domesticité, elle sert son vieux maître avec le plus vigilant despotisme. Que vous disais-je? La voici qui ne veut pas me donner ma canne à pommes d'argent, de peur que je ne la perde. Il est vrai que j'oublie assez souvent parapluie et béquille dans les omnibus et chez les libraires. Mais j'ai une bonne raison pour prendre aujourd'hui mon vieux jonc dont la pomme d'argent ciselée représente Don Quichotte galopant la lance en arrêt contre des moulins à vent, tandis que Sancho Panza, les bras au ciel, le conjure en vain de s'arrêter. Cette canne est tout ce que j'ai recueilli de l'héritage de mon oncle, le capitaine Victor, qui fut de son vivant plus semblable à Don Quichotte qu'à Sancho Panza, et qui aimait les coups aussi naturellement qu'on les craint d'ordinaire. Depuis 30 ans, je la porte, cette canne, à chaque course mémorable ou solennelle que je fais, et les deux figurines du seigneur et de l'écuyer m'inspirent et me conseillent. Je crois les entendre. Don Quichotte me dit « Pense fortement de grandes choses, et sache que la pensée est la seule réalité du monde. Hausse la nature à ta taille, et que l'univers tout entier ne soit pour toi que le reflet de ton âme héroïque. Combat pour l'honneur. Cela seul est digne d'un homme, et s'il t'arrive de recevoir des blessures, répands ton sang comme une rosée bienfaisante et souris. » Et Sancho Panza me dit à son tour « Reste ce que le ciel t'a fait, mon compère. Préfère la croûte de pain qui sèche dans ta besace aux ortolans qui rôtissent dans la cuisine du Seigneur. Obéis à ton maître, sage ou fou, et ne t'embarrasse pas le cerveau de tant de choses inutiles. Crains les coups, c'est tenter Dieu que de chercher le péril. Mais si le chevalier incomparable et son nom pareil écuyer sont en image au bout de ce bâton, ils sont en réalité dans mon fort intérieur. Nous avons tous en nous un Don Quichotte et un Sancho que nous écoutons, et alors même que Sancho nous persuade, c'est Don Quichotte qu'il nous faut admirer. Mais trêve de radotage, et allons chez Madame de Gabry pour une affaire qui passe le train ordinaire de la vie. » Même jour, je trouvai Madame de Gabry vêtue de noir et boutonnant ses gants. « Je suis prête, » me dit-elle. « Prête, oui, c'est ainsi que je l'ai trouvée en toute occasion de bien faire. » Après quelques compliments sur la bonne santé de son mari, alors en promenade, nous descendîmes l'escalier et montâmes en voiture. Je ne sais quelle secrète influence je craignais de dissiper en rompant le silence, mais nous suivîmes les larges boulevards déserts en regardant sans rien dire les croix, les cipes et les couronnes qui attendent chez le marchand leur funèbre clientèle. Le fiacre s'arrêta aux derniers confins de la terre des vivants, devant la porte sur laquelle sont gravées des paroles d'espérance. « Suivez-moi, » me dit Madame de Gabry, dont je remarquai pour la première fois la haute taille. Nous allâmes le long d'une allée de cyprès, puis nous suivîmes un chemin étroit ménagé entre des tombes. Enfin, devant une pierre couchée, « C'est là, » me dit-elle, et elle s'agenouilla. Je remarquai, malgré moi, le beau mouvement d'abandon par lequel cette femme chrétienne tomba les deux genoux à terre, laissant les flots de sa robe se répandre au hasard autour d'elle. Je n'avais jamais vu de dame s'agenouiller si franchement et avec un tel oubli de soi-même, hors deux exilées polonaises un soir dans une église déserte de Paris. Cette image me traversa comme un éclair et je ne vis plus que la pierre inclinée sur laquelle était le nom de Clémentine. Ce que je ressentis alors fut quelque chose de profond et de vague qui ne peut s'exprimer que par les sons d'une belle musique. J'entendis des instruments d'une douceur céleste chanter dans ma vieille âme. Aux graves harmonies d'un hymne funéraire se mêlaient les notes voilées d'un cantique d'amour, car mon âme confondait dans un même sentiment la morne gravité du présent et les grâces familières du passé. Je le puis dire s'il y avait longtemps que nous étions devant la tombe de Clémentine, quand Madame de Gabory se leva. Nous traversâmes le cimetière sans nous rien dire. Quand nous fûmes de nouveau au milieu des vivants, ma langue se délia. En vous suivant, dis-je à Madame de Gabory, je songeais à ces anges des légendes qu'on rencontre aux confins mystérieux de la vie et de la mort. La tombe à laquelle vous m'avez conduit, et que j'ignorais comme presque tout ce qui touche à celle qu'elle recouvre, m'a rappelé des émotions uniques dans ma vie et qui sont dans cette vie si terne comme une lumière sur un chemin noir. La lumière s'éloigne à mesure que la route s'allonge. Je suis presque au bas de la dernière côte et pourtant je vois la lueur aussi vive chaque fois que je me retourne. Vous, madame, vous qui avez connu Clémentine en cheveux blancs, épouse et mère. Vous ne pouvez l'imaginer, jeune fille, blonde, rose et blanche, telle que je la vis. Puisque vous avez bien voulu être mon guide, je dois vous dire, chère madame, quel sentiment m'a rappelé cette tombe devant laquelle vous m'avez conduit. Les souvenirs se pressent dans mon âme. Je suis comme un vieux chêne noueux et moussu qui réveille des nichées d'oiseaux chanteurs en agitant ses branches. Par malheur, la chanson de mes oiseaux est vieille comme le monde et ne peut amuser que moi. Monsieur de Lessay, apprenant que je sortais de l'école des Chartes, me jugea digne de collaborer à son atlas historique. Il s'agissait de déterminer sur une suite de cartes ce que le vieillard philosophe nommait les vicissitudes des empires depuis Noé jusqu'à Charlemagne. Monsieur de Lessay avait emmagasiné dans sa tête toutes les erreurs du XVIIIe siècle en matière d'antiquité. J'étais en histoire de l'école des novateurs et dans un âge où l'on ne sait guère feindre. La façon dont le vieillard comprenait, ou plutôt ne comprenait pas, les temps barbares, son obstination à voir dans la haute antiquité des princes ambitieux, des prélats hypocrites et cupides, des citoyens vertueux, des poètes, philosophes et autres personnages qui n'ont jamais existé que dans les romans de Marmontel, me rendait horriblement malheureux et m'inspira d'abord toutes sortes d'objections fort rationnelles sans doute, mais parfaitement inutiles et quelquefois dangereuses. Monsieur de Lessay était bien irascible et Clémentine était bien belle. Entre elle et lui, je passais des heures de torture et de délices. J'aimais, je fus lâche, et lui accordais bientôt tout ce qu'il exigea sur la figure historique et politique de cette terre qui plus tard devait porter Clémentine, affectée aux époques d'Abraham, de Ménès et de Deucalion. À mesure que nous graissions nos cartes, Mademoiselle de Lessay les lavait à l'aquarelle. Penchée sur la table, elle tenait le pinceau à deux doigts. Une ombre lui descendait des paupières sur les joues et baignait ses yeux mi-clos d'une ombre charmante. Parfois, elle levait la tête et je voyais sa bouche entr'ouverte. Il y avait tant d'expression dans sa beauté qu'elle ne pouvait respirer sans avoir l'air de soupirer, et ses attitudes les plus ordinaires me plongeaient dans une rêverie profonde. En la contemplant, je convenais avec M. de Lessay que Jupiter avait régné despotiquement sur les régions monstrueuses de la Thessalie et qu'Orphée fut imprudent en confiant au clergé l'enseignement de la philosophie. Je ne sais pas encore aujourd'hui si j'étais un lâche ou un héros quand j'accordais cela à l'entêté vieillard. Mademoiselle de Lessay, je dois le dire, ne me prêtait pas grande attention. Mais cette indifférence me semblait si juste et si naturelle que je ne songeais pas à m'en plaindre. J'en souffrais, mais c'était sans le savoir. J'espérais, nous n'étions encore qu'au premier empire d'Assyrie. Monsieur de Lessay venait chaque soir prendre le café avec mon père. Je ne sais comment ils s'étaient liés, car il est rare de rencontrer deux natures aussi complètement différentes. Mon père admirait peu et pardonnait beaucoup. Avec l'âge, il avait pris en haine toutes les exagérations. Il revêtait ses idées de mille nuances fines et n'épousait jamais une opinion qu'avec toutes sortes de réserves. Ses habitudes d'un esprit délicat faisaient bondir le vieux gentilhomme, sec et cassant, que la modération d'un adversaire ne désarmait jamais, bien au contraire. Je flairais un danger. Ce danger était Bonaparte. Mon père n'avait gardé aucune tendresse pour lui, mais ayant travaillé sous ses ordres, il n'aimait pas à l'entendre injurier, surtout au profit des Bourbons, contre lesquels il avait des griefs sanglants. Monsieur de Lessay, plus voltairien et plus légitimiste que jamais, faisait remonter à Bonaparte l'origine de tout mal politique, social et religieux. En cet état de choses, le capitaine Victor m'inquiétait par-dessus tout. Cet oncle terrible était devenu parfaitement intolérable depuis que sa sœur n'était plus là pour le calmer. La harpe de David était brisée et Saül se livrait à ses fureurs. La chute de Charles X augmenta l'audace du vieux napoléonien qui fit toutes les bravades inimaginables. Il ne fréquentait plus notre maison, trop silencieuse pour lui. Mais parfois, à l'heure du dîner, nous le voyions apparaître, couvert de fleurs, comme un mausolée. Communément, il se mettait à table en jurant du fond de sa gorge, vantait entre les bouchées ses bonnes fortunes de vieux braves. Puis, le dîner fini, il pliait sa serviette en bonnet d'évêque, avalait un demi-quart à fond d'eau-de-vie et s'en allait avec la hâte d'un homme épouvanté, à l'idée de passer sans boire un temps quelconque en tête-à-tête avec un vieux philosophe et un jeune savant. Je sentais bien que s'il rencontrait un jour M. de Lessay, tout serait perdu. Bien, ce jour arriva, madame. Le capitaine disparaissait cette fois sous les fleurs et ressemblait si bien à un monument commémoratif des gloires de l'Empire qu'on avait envie de lui passer une couronne d'immortels à chaque bras. Il était extraordinairement satisfait et la première personne qui bénéficia de cette heureuse disposition fut la cuisinière qu'il prit par la taille au moment où elle posait le rôti sur la table. Après le dîner, il repoussa le carafon qu'on lui présenta en disant qu'il ferait flamber tout à l'heure l'eau-de-vie dans son café. Je lui demandai en tremblant s'il n'aimerait pas mieux qu'on lui servît son café de suite. Il était fort défiant et point sot, mon oncle Victor. Ma précipitation lui parut de mauvais aloi, car il me regarda d'un certain air et me dit « Patience, mon neveu, c'est pas l'enfant de troupe à sonner la retraite, que diable. Vous êtes donc bien pressé, monsieur le magistère, de voir si j'ai des éperons à mes bottes. » Il était clair que le capitaine avait deviné que je souhaitais qu'il s'en allât. Le connaissant, j'eus la certitude qu'il resterait. Il resta. Les moindres circonstances de cette soirée demeurent empreintes dans ma mémoire. Mon oncle était tout à fait jovial. La seule pensée d'être importun le gardait en belle humeur. Il nous conta, dans un excellent style de caserne, ma foi, certaine histoire d'un moine, d'un trompette et de 5 bouteilles de chambertin qui doit être fort goûté dans les garnisons et que je n'essaierai pas de vous conter, madame, même si je me la rappelais. Quand nous passâmes dans le salon, le capitaine nous signala le mauvais état de nos chenets et nous enseigna doctement l'emploi du tripoli pour le polissage des cuivres. De politique, pas un mot. Il se ménageait. 8 coups sonnèrent dans les ruines de Carthage. C'était l'heure de Monsieur de Lessay. Quelques minutes après, il entra dans le salon avec sa fille. Le train ordinaire des soirées commença. Clémentine se mit à broder près de la lampe, dont l'abat-jour laissait sa jolie tête dans une ombre légère et ramenait sur ses doigts une clarté qui les rendait presque lumineux. Monsieur de Lessay parla d'une comète annoncée par les astronomes et développa à cette occasion des théories qui, si hasardeuses qu'elles fussent, témoignaient de quelque culture intellectuelle. Mon père, qui avait des connaissances en astronomie, exprima de saines idées qu'il termina par son éternel « Que sais-je, enfin ?» Je produisis à mon tour l'opinion de notre voisin de l'observatoire, le grand Arago. L'oncle Victor affirma que les comètes ont une influence sur la qualité des vins et cita à l'appui une joyeuse histoire de cabaret. J'étais si content de cette conversation que je m'efforçais de la maintenir à l'aide de mes plus fraîches lectures par un long exposé de la constitution chimique de ces astres légers qui, répandus dans les espaces célestes sur des milliards de lieues, tiendraient dans une bouteille. Mon père, un peu surpris de mon éloquence, me regardait avec sa placide ironie. Mais on ne peut rester toujours dans les cieux. Je parlais, en regardant Clémentine, d'une comète de diamants que j'avais admirée la veille à la montre d'un joaillier. Je fus bien mal inspiré. « Mon neveu !» s'écria le capitaine Victor. « Ta comète ne valait pas celle qui brillait dans les cheveux de l'impératrice Joséphine quand elle vint à Strasbourg distribuer des croix à l'armée. » Dans cette petite Joséphine aimait grandement la parure, reprit Monsieur de Lessay entre deux gorgées de café. Je ne l'en blâme pas, elle avait du bon, quoique un peu légère. C'était une tachère, et elle fit grand honneur à Buonaparte en l'épousant. Une tachère, c'est pas beaucoup dire, mais un Buonaparte, ce n'est rien dire du tout. Qu'entendez-vous par là, monsieur le marquis ? Demanda le capitaine Victor. « Je ne suis pas marquis, » répondit sèchement M. de Lessay, « et j'entends que Buonaparte eût été fort bien apparié en épousant une de ces femmes cannibales que le capitaine Cook décrit dans ses voyages, nue, tatouée, un anneau dans les narines et dévorant avec délices des membres humains putréfiés. « Je l'avais prévu, » pensais-je, « et dans mon angoisse, ô pauvre cœur humain, ma première idée fut de remarquer la justesse de mes prévisions. Je dois dire que la réponse du capitaine fut du genre sublime. Il se campa le poing sur la hanche, toisa dédaigneusement M. de Lessay et dit « Napoléon, monsieur le vidame, est une autre femme que Joséphine et que Marie-Louise. Cette compagne, vous ne la connaissez pas, et moi je l'ai vue de près. Elle porte un manteau d'azur constellé d'étoiles. Elle est couronnée de lauriers et la croix d'honneur brille sur sa poitrine. Elle se nomme la gloire. » Monsieur de Lessay posa sa tasse sur la cheminée et dit tranquillement « Votre Buonaparte était un polisson. » Mon père se leva avec nonchalance, étendit lentement le bras et dit d'une voix très douce à M. de Lessay « Quel qu'ait été l'homme qui est mort à Sainte-Hélène, j'ai travaillé 10 ans dans son gouvernement et mon beau-frère fut blessé 3 fois sous ses aigles. Je vous supplie, monsieur et ami, de ne plus l'oublier à l'avenir. » Ce que n'avaient pas fait les insolences sublimes et burlesques du capitaine, la remontrance courtoise de mon père jeta M. de Lessay dans une colère furieuse. « Je l'oubliais, » s'écria-t-il, les dents serrées et l'écume à la bouche. « J'avais tort, la caque sent toujours le hareng, et quand on a servi des coquins... » À ce mot, le capitaine lui sauta à la gorge. Il aurait, je crois, étranglé sans sa fille et sans moi. Mon père, les bras croisés, un peu plus pâle qu'à l'ordinaire, regardait ce spectacle avec une indicible expression de pitié. Ce qui suivit fut plus lamentable encore, mais à quoi bon insister sur la folie des deux vieillards? Enfin, je parvins à les séparer. M. de Lesseps fit un signe à sa fille et sortit. Comme elle le suivait, je courus après elle dans l'escalier. « Mademoiselle, lui dis-je éperdu en lui pressant la main, je vous aime, je vous aime. » Elle garda une seconde ma main dans la sienne. Sa bouche s'entr'ouvrit. Qu'allait-elle dire? Mais tout à coup, levant les yeux vers son père qui montait l'étage, elle retira sa main et me fit un geste d'adieu. Je ne l'ai pas revue depuis. Son père alla se loger du côté du Panthéon dans un appartement qu'il avait loué pour la vente de son atlas historique. Il y mourut peu de temps, moi, après une attaque d'apoplexie. Sa fille se retira, me dit-on, à Caen, chez une vieille parente. C'est là qu'ayant passé la première jeunesse, elle épousa un commis de banque, ce Noël Alexandre, qui devint si riche et mourut si pauvre. Quant à moi, madame, je vécus seul en paix avec moi-même. Mon existence, exempte de grands maux et de grandes joies, fut assez heureuse. Mais je n'ai pu de longtemps voir, dans les soirées d'hiver, un fauteuil vide auprès du mien, sans que mon cœur ne se serrât douloureusement. L'an passé, j'ai appris de vous, qui l'avez connu, sa vieillesse et sa mort. J'ai vu sa fille chez vous. Je l'ai vu, mais je ne dirai pas encore, comme le vieillard de l'Écriture. Et maintenant, rappelez à vous votre serviteur, Seigneur. Si un bonhomme comme moi peut être utile à quelqu'un, c'est à cette orpheline que je veux, avec votre aide, consacrer mes dernières forces. J'avais prononcé ces derniers mots dans le vestibule de l'appartement de Madame de Gabry. J'allais me séparer de cet aimable guide quand elle me dit « Cher monsieur, je ne puis vous aider en cela autant que je voudrais. Jeanne est orpheline et mineure. Vous ne pouvez rien faire pour elle sans l'autorisation de son tuteur. »« Ah ! » m'écriai-je, je n'avais pas songé le moins du monde que Jeanne eût un tuteur. Madame de Gabry me regarda avec une visible expression de surprise. Elle n'attendait pas du bonhomme tant de simplicité. Elle reprit « Oui, le tuteur de Jeanne-Alexandre est maître Mouche, notaire à Levallois-Perret. Je crains que ne vous entendiez pas bien avec lui, car c'est un homme sérieux. »« Eh bon Dieu » m'écriai-je, « avec qui donc voulez-vous que je m'entende à mon âge, si ce n'est avec des personnes sérieuses ?» Elle sourit avec une douce malice, comme souriait mon père, et dit « Avec ceux qui vous ressemblent, les innocents qui ont les mains pleines, Monsieur Mouche n'est pas précisément de ceux-là. Il a l'esprit retors et les mains crochues, bien que j'aie très peu de plaisir à le rencontrer. Nous irons ensemble, si vous voulez, lui demander la permission d'aller voir Jeanne, qui l'a mise dans un pensionnat des ternes où elle est très malheureuse. Nous prîmes jour, je baisai les mains de Madame de Gabry, et nous nous séparâmes. Du 2 au 5 mai, je l'ai vu dans son étude, Maître Mouche, le tuteur de Jeanne. Petit, maigre et sec, son teint semble fait de la poussière de ses paperasses. C'est un animal lunetté, car on ne peut l'imaginer sans ses lunettes. Je l'ai entendu, Maître Mouche. Il a une voix de crécelle et il parle en termes choisis, mais j'eusse préféré qu'il ne choisît pas du tout ses termes. Et je l'ai observé, Maître Mouche. Il est cérémonieux et guette son monde du coin de l'œil, sous ses lunettes. Maître Mouche est heureux, nous a-t-il dit. Il est ravi de l'intérêt que nous portons à sa pupille. Mais il ne croit pas qu'on soit sur la terre pour s'amuser. Non, ne le croit pas. Et je dirais, pour être juste, qu'on est de son avis quand on est près de lui, tant il est peu récréatif. Il craindrait qu'on donnât une idée fausse et pernicieuse de la vie à sa chère pupille en lui procurant trop de plaisir. C'est pourquoi il supplie Madame de Gabry de ne prendre que très rarement cette jeune fille chez elle. Nous quittâmes le poudreux tabellion et sa poudreuse étude avec une autorisation en règle. Tout ce qui vient de Maître Mouche est en règle. De voir le premier jeudi de chaque mois Mademoiselle Jeanne Alexandre chez Mademoiselle Préfère, institutrice rue Demours au Tern. Le premier jeudi de mai, je me rendis chez Mademoiselle Préfère, dont l'établissement me fut signalé d'assez loin par une enseigne en lettres bleues. Ce bleu me fut un premier indice du caractère de Mademoiselle Virginie Préfère, lequel j'eus depuis l'occasion d'étudier amplement. Mais le servante effaré prit ma carte et m'abandonna, sans un mot d'espoir, dans un froid parloir où je respirais cette odeur fade particulière au réfectoire des maisons d'éducation. Le plancher de ce parloir avait été ciré avec une si impitoyable énergie que je pensais rester en détresse sur le seuil. Mais, ayant heureusement remarqué des petits carrés de laine semés sur le parquet devant les chaises de crin, je parvins, en mettant successivement le pied sur chacun de ces îlots de tapisserie, à m'avancer jusqu'à l'angle de la cheminée où je m'assis essoufflé. Il y avait sur cette cheminée, dans un grand cadre doré, un écriteau qui s'intitulait en gothique flamboyant « Tableau d'honneur » et qui contenait un très grand nombre de noms, parmi lesquels je n'eus pas le plaisir de trouver celui de Jeanne Alexandre. Après avoir lu plusieurs fois ceux des élèves qui s'étaient honorés aux yeux de Mademoiselle Préfère, je m'inquiétais de ne rien entendre venir. Mademoiselle Préfère aurait certainement réussi à établir sur ses domaines pédagogiques le silence absolu des espaces célestes, si les moineaux n'avaient choisi sa cour pour y venir en essaims innombrables, piailler à bec que veux-tu. C'était plaisir de les entendre. Mais de les voir, le moyen, je vous prie, à travers les vitres dépolies. Il fallut me contenter du spectacle qu'offrait le parloir, décoré du haut en bas, sur les quatre murs des dessins exécutés par les pensionnaires de l'établissement. Il y avait là des vestales, des fleurs, des chaumières, des chapiteaux, des volutes et une énorme tête de Tatius, roi des Sabins, signée Estelle Mouton. J'admirais depuis assez longtemps l'énergie avec laquelle Mademoiselle Mouton avait accusé les sourcils en broussailles et les yeux irrités du guerrier antique, quand un bruit plus léger que celui d'une feuille morte qui glisse au vent me fit tourner la tête. En effet, non, ce n'était pas une feuille morte, c'était Mademoiselle Préfère. Les mains jointes, elle avançait sur le miroir du parquet comme les saintes de la légende dorée sur le cristal des eaux. Mais en toute autre occasion, Mademoiselle Préfère ne m'aurait pas fait songer, je crois, aux vierges chères à la pensée mystique. À ne considérer que son visage, elle m'aurait plutôt rappelé une pomme de rainette conservée pendant l'hiver dans le grenier d'une sage ménagère. Elle avait sur les épaules une pèlerine à franges, qui n'offrait par elle-même rien de considérable, mais qu'elle portait comme si c'eût été un vêtement sacerdotal ou l'insigne d'une haute fonction civile. Je lui expliquai le but de ma visite et lui remis ma lettre d'introduction. « Vous avez vu Monsieur Mouche, me dit-elle. Sa santé est-elle aussi bonne que possible? C'est un homme si honnête, si... » Elle n'acheva pas, et ses regards s'élevèrent au plafond. Les miens les y suivirent et rencontrèrent une petite spirale en dentelle de papier qui, suspendue à la place d'un lustre, était destinée, selon mes conjectures, à attirer les mouches et à les détourner, par conséquent, des cadres dorés des glaces et du tableau d'honneur. J'ai rencontré, dis-je, mademoiselle Alexandre chez madame de Gabry, et j'ai pu apprécier l'excellent caractère et la vive intelligence de cette jeune fille. Ayant beaucoup connu ses parents, je me sens enclin à reporter sur elle l'intérêt qu'il m'inspirait. Pour toute réponse, mademoiselle préfère soupira profondément, pressa sur son cœur sa mystérieuse pèlerine et contempla de nouveau la petite spirale de papier. Enfin, elle me dit « Puisque vous avez été, monsieur, l'ami de monsieur et de madame Alexandre, j'aime à croire que vous avez déploré, comme monsieur Mouche et comme moi, les folles spéculations qui les ont conduits à la ruine et ont réduit leur fille à la misère. » Je songeais, en entendant ces paroles, que c'est un grand tort que d'être malheureux, et que ce tort est impardonnable à ceux qui furent longtemps dignes d'envie. Leur chute nous venge et nous flatte, et nous sommes impitoyables. Après avoir déclaré en toute franchise que j'étais tout à fait étranger aux affaires de banque, je demandai à la maîtresse de pension si elle était contente de mademoiselle Alexandre. « Mais cet enfant est indomptable !» s'écria mademoiselle Préfère. Et elle prit une attitude de haute école pour expliquer symboliquement la situation que lui créait une élève si difficile à dresser. Puis, revenue à des sentiments plus calmes, « Cette jeune personne, dit-elle, n'est pas sans intelligence, mais elle ne peut pas se résoudre à prendre les choses par principe. Quelle étrange demoiselle que la demoiselle préfère. Elle marchait sans lever les jambes et parlait sans remuer les lèvres. Sans m'arrêter plus que de raison à ses particularités, je lui répondis que les principes étaient sans doute quelque chose d'excellent et que je m'en rapportais sur ce point à ses lumières, mais qu'enfin, quand on savait une chose, il était indifférent qu'on l'eût apprise d'une façon ou d'une autre. Mademoiselle Préfère fit lentement un signe de dénégation, puis en soupirant. « Ah, monsieur, dit-elle, les personnes étrangères à l'éducation s'en font des idées bien fausses. Je suis certaine qu'elles parlent dans les meilleures intentions du monde, mais elles feraient mieux, beaucoup mieux, de s'en rapporter aux personnes compétentes. » Je n'insistais pas et lui demandait si je pouvais voir, sans plus tarder, mademoiselle Alexandre. Elle contempla sa pèlerine comme pour lire dans l'emmêlement des franges, ainsi qu'en un grimoire, la réponse qu'elle devait rendre, et dit enfin « Mademoiselle Alexandre a une pénitence à faire et une répétition à donner. » Mais je serais désolé que vous fussiez dérangé inutilement. Je vais la faire appeler. Permettez-moi seulement, monsieur, pour plus de régularité, d'inscrire votre nom sur le registre des visiteurs. » Elle s'assit devant la table, ouvrit un gros cahier, et tirant de dessous sa pèlerine la lettre de maître Mouche qu'elle y avait glissée. Bonnard par un D, n'est-ce pas? Me dit-elle en écrivant. « Excusez-moi d'insister sur ce détail, mais mon opinion est que les noms propres ont une orthographe. Ici, monsieur, on fait des dictées de noms propres, de noms historiques, bien entendu. » Ayant inscrit mon nom d'une main déliée, elle me demanda si elle ne pourrait pas le faire suivre d'une qualité quelconque, telle qu'ancien négociant, employé, rentier ou tout autre. Il y avait dans son registre une colonne pour les qualités. « Mon Dieu, madame, lui dis-je, si vous tenez absolument à remplir votre colonne, mettez « membre de l'Institut ». C'était bien la pèlerine de mademoiselle Préfère que je voyais devant moi, mais ce n'était plus mademoiselle Préfère qui en était revêtue. C'était une nouvelle personne, avenante, gracieuse, câline, heureuse, radieuse, celle-là. Ses yeux souriaient, les petites rides de son visage, oh, le nombre en est grand, souriaient. Sa bouche aussi souriait, mais d'un seul côté. J'ai reconnu depuis que c'était le beau côté. Elle parla, sa voix allait à son air, c'était une voix de miel.
Vous disiez donc, monsieur, que cette chère Jeanne est très intelligente. Mais j'ai fait de mon côté la même observation, et je suis fier de m'être rencontré avec vous. Cette jeune fille m'inspire en vérité beaucoup d'intérêt. Elle a ce que j'appelle un heureux caractère. Mais pardonnez-moi d'abuser de vos précieux moments. »
Elle appela la servante, qui se montra plus empressée et plus effarée que devant, et qui disparut sur l'ordre d'avertir Mademoiselle Alexandre que M. Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut, l'attendait au parloir. Mademoiselle Préfère n'eut que le temps de me confier qu'elle avait un profond respect pour les décisions de l'Institut, quelles qu'elles fussent. Et Jeanne parut, essoufflée, rouge comme une pivoine, les yeux grands ouverts, les bras ballants, charmante dans sa gaucherie naïve.
« Comme vous êtes faite, ma chère enfant !» murmura Mademoiselle Préfère avec une douceur maternelle en lui arrangeant son col.
Jeanne était faite, il est vrai, d'une bien étrange façon. Ses cheveux, tirés en arrière et pris dans un filet duquel il s'échappait par mèche, ses bras maigres, enfermés jusqu'au coude dans des manches de lustrine, ses mains rouges d'engelure et dont elle sentait blais fort embarrassée, sa robe trop courte qui laissait voir des bas trop larges et des bottines éculées, une corde à sauter passée comme une ceinture autour de sa taille, tout cela faisait de Jeanne une demoiselle peu présentable.
« Petite folle !» soupira Mademoiselle Préfère, qui cette fois semblait non plus une mère, mais une sœur aînée.
Puis elle s'échappa en glissant comme une ombre sur le miroir du plancher. Je dis à Jeanne, « Asseyez-vous, Jeanne, et parlez-moi comme à un ami. Ne vous plaisez-vous pas mieux ici cette année que l'année dernière ?» Elle hésita, puis me répondit avec un bon sourire résigné, « Ouf, pas beaucoup mieux. » Je la priai de me dire quelle était sa vie dans cette maison. Elle commença à m'énumérer toutes sortes d'exercices, piano, style, chronologie des rois de France, couture, dessin, danse, catéchisme, savoir-vivre, que sais-je encore. Elle tenait dans ses mains, sans s'en apercevoir, les deux bouts de sa corde qu'elle soulevait et abaissait régulièrement en faisant son énumération. Mais elle s'en avisa tout à coup, rougit, balbutia, et je dus renoncer à connaître le programme complet des études de l'institution Préfère.